La providence de Dieu nous rappelle souvent qu'on ne contrôle pas grand-chose, mais on l'oublie très rapidement. Tout de suite, on dit « OK, je suis au contrôle, il faut que je fasse ça. » Puis à quelque part, j'ai besoin de croire que si je décide de passer, bien, la pièce va être plus propre, t'sais, fait que je vais entreprendre quelque chose. Je suis un agent moralement responsable, mais je ne suis pas autodéterminé. Je ne suis pas aussi libre que, à quelque part, ma nature déchue voudrait le croire. Je suis entièrement libre de tout ce que je veux faire. Et ça, ça vient en affront direct, ça vient en conflit direct, je veux dire, avec peut-être la valeur la plus importante en Occident actuellement, hein? Réalise-toi toi-même. T'es dans un ton projet de ta vie, là, c'est de te réaliser. Ça, c'est l'objectif de ta vie. Puis là, tu arrives avec cette doctrine-là, puis tu dis, ben tu vas jouer un rôle, mais fondamentalement, tu as un rôle secondaire. Le rôle premier, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui l'a. Tu joues un rôle. Joue ton rôle. Il est secondaire. Quand je partais en vacances cet été, quelques jours avant qu'on parte, j'ai un ami au service de police qui m'appelle, puis qui me dit, il m'apprend le décès du porte-parole de la police de Longueuil. Je pense que je l'ai mentionné déjà, mais Christian Vallière. Honnêtement, ça a été un choc pour moi. Christian, 54 ans, pleine forme. Un gars qui prend soin de lui. Puis il est parti, puis je suis revenu. J'ai été sous le choc pendant plusieurs jours. J'ai traîné ça un peu pendant mes vacances. Puis je me souviens, première journée au bureau, je rentre au bureau, puis je dis, « Ghislain ne m'appellera plus. J'aurai plus d'appel de Ghislain. » Je dis, « Où ça? Ça me trouble encore. » On est au contrôle de très, 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 très peu de choses. Très peu de choses. Mais c'est dur pour nous à accepter. On veut être au contrôle. Troisième grande idée qu'on trouve dans le livre, la grande portée de l'objectif de Dieu dans la providence nous donne l'assurance que toute souffrance est entièrement voulue, je sais que ça peut faire mal, et que son salut par le don de soi pour les pécheurs indignes est entièrement certain. Donc, Dieu permet, à quelque part, il décide les plus grandes souffrances dans nos vies. Mais d'autre part, puisqu'il est absolument souverain et absolument bien intentionné, il est amour, il a toutes les capacités de réaliser le salut qu'il nous a promis. Et donc, j'ai aucune raison de douter qu'il va me garder jusqu'à la fin. J'ai aucune raison de douter qu'il va revenir. J'ai aucune raison de douter que tous ceux qui sont partis, comme Daniel Cubidu la semaine dernière, bien, ils ont eu leur promotion dans la gloire. Ils ont eu leur promotion dans la gloire. Daniel voit enfin ce Jésus dont elle parlait toujours avec tellement d'affection. J'ai aucune raison d'en douter à cause de la providence de Dieu. Dieu est tout-puissant et parfaitement intentionné envers nous. Dieu ne gaspille pas nos souffrances. C'est une des implications. J'ai le droit de crier à Dieu pourquoi. J'ai le droit de crier à Dieu pourquoi. Les psaumes me l'enseignent. J'ai le droit de crier à Dieu, mais je trouve ça tellement injuste. J'ai le droit de crier à Dieu, je veux que ça parte, je veux que ça finisse. Absolument, j'ai le droit de faire tout ça. J'ai le droit de faire tout ça. Mais Dieu ne gaspille aucune des épreuves dans nos vies. Aucune. Aucune. Même si je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est dans sa providence qu'il les donne. Oui, on a une main ici que tu connais, David. Ah, ou que tu connais, Jonathan.
C'est ma mère.
Oui, c'est Mom. Yes, Mom.
Moi, ça m'amène à penser que l'autre côté de la médaille, comme je pourrais dire, que la souffrance vis-à-vis de ceux qui vont mourir sans Dieu, sans connaissance de la personne de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on l'insère dans la providence de Dieu?
Oui, merci. Mm-hmm. C'est un commentaire, une question. Oui, ça veut dire que Dieu est souverain pour toutes choses. Je veux dire, et je ne rentrerai pas dans la doctrine de l'élection à ce moment-ci, on aura le temps d'y revenir, mais je veux dire, allez lire Romains. Dieu crée pour un usage, un pour un usage vil, un pour un usage utile. Et Dieu est absolument souverain. C'est, oui. Et donc, Dieu permet qu'il y a des gens qui vont vivre toute leur vie sans jamais croire en lui. Et ils seront moralement responsables d'avoir rejeté Dieu. Encore une fois, la lettre aux Romains, c'est la lettre pour aborder toute cette question-là. Oui, Esther.
Tu as fait au début la distinction entre providence et souveraineté.
Oui.
Pourrais-tu faire la distinction entre providence et la volonté de Dieu? Et pour le passé, j'ai perdu ma job. Est-ce que je cherche à comprendre la volonté de... C'était la volonté de Dieu? Est-ce que je cherche la providence? Puis pour l'avenir, un autre, j'ai un choix à faire. Est-ce que je cherche quelle est la volonté de Dieu ou je cherche qu'est-ce que Dieu a dans sa providence? Fait que faire la distinction entre providence et volonté de Dieu, s'il vous plaît.
Mais tu parles surtout dans l'application concrète de dire comment je fais pour discerner sa volonté.
Oui, bien, je cherche sa volonté ou je cherche sa providence? Dans le concret, je vais chercher quoi?
OK. Bien, oui, je vais essayer, mais c'est bon, ça aide à clarifier la définition, là, puis on vient à la définition. Je constate la providence de Dieu, je l'observe, je crois dans la providence de Dieu. J'ai confiance dans la providence de Dieu et à travers ça, je cherche la sagesse pour voir quelle est la volonté de Dieu. Donc, à travers la provision que Dieu va donner, je vais, par exemple, je veux dire, c'est l'église où pratiquement je suis né, là, j'ai commencé à fréquenter à 7 ans. Mais à plusieurs occasions, j'ai eu l'opportunité d'aller servir dans une autre assemblée. À chaque fois, lorsque je regardais la providence de Dieu, les circonstances que je mettais sur la prière, je disais, Seigneur, est-ce que tu me libères? Est-ce que c'est le moment, je m'en vais ailleurs? À chaque fois, la conviction que j'ai eue, je pourrais me tromper parce qu'il n'y a pas écrit sur les murs. D'accord? Mais à chaque fois, j'en suis venu à la conviction, toi aussi, chérie, qu'on n'était pas appelé à quitter. Comment est-ce qu'on l'a fait? Comment est-ce qu'on en est venu à cette conviction-là? Donc, essayer de déterminer la volonté de Dieu, c'est en regardant ce que Dieu donne dans sa provision. Je me tourne vers les anciens. Est-ce que les anciens me disent, Yannick, tu as encore un rôle à jouer ici? Je regarde moi, est-ce que j'ai encore une joie à servir? Est-ce que je vois où est-ce qu'on s'en va comme Église? En 2013, l'Église m'a accordé 11 semaines de pause pour aller faire un peu de repos, 50 % repos, 50 % de la recherche pour voir qu'est-ce qui manque, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la prochaine étape. Je ne me souviens pas si on l'avait dit explicitement à l'époque à l'Église, mais dans la première question, en fait, que j'allais poser à Dieu dans ces 11 semaines-là, c'est « Seigneur, est-ce que c'est encore moi le pasteur de cette église-là ou je laisse ma place? » On était pris dans un plateau, il y a des choses qui n'avançaient pas. Puis c'était la première question. Les anciens savaient. On était très ouverts. J'ai dit « Écoutez, les gars, vous investissez pour moi, là, pour 11 semaines, vous payez mon salaire, tout ça. Ça se peut que la réponse, c'est « Je m'en vais. » Mais c'était un moment où je cherchais comme ça. Donc, je constate la providence de Dieu à travers tout ce qu'il pourvoit, toute sa provision. Ça, c'est son intention dans sa souveraineté. Les gens qui me conseillent, dans mon cas, là, pour donner l'exemple concret, les gens qui me conseillent, l'état de ma santé, est-ce que mon épouse croit encore que c'est notre place? Est-ce que j'ai une vision pour l'avenir? Ça, c'est la provision. Puis ensuite de ça, je m'en vais dans la prière, puis je dis, Seigneur, donne-moi une conviction claire. Donne-moi une conviction claire. Et si mon cœur avait été encore troublé, si j'avais dit, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui cloche. Mais là, je continue à chercher la face de Dieu pour avoir une conviction de sa volonté. Mais ça se peut que je sois convaincu de sa volonté. Puis là, je dis, OK, c'est clair, il faut que je reste. Deux semaines après, j'ai un cancer généralisé, je meurs dans 3 mois. Ça se peut que je n'ai pas discerné la volonté de Dieu, comprenez, parce que ce n'était pas écrit sur les murs. Mais ça, c'est mon rapport dans mon discernement de la volonté de Dieu avec la providence de Dieu. Dieu pourvoit, ça m'éclaire, ça me guide. J'ai une autre question ici avec Suzy. Pardon? Oui, ça va bien. On est-tu en retard dans nos notes? J'ai un rappel à l'ordre de... Yes.
Est-ce que je pourrais résumer la question entre la volonté et la providence de Dieu comme ça? Puis tu corriges
vas-y, vas-y.
Si je suis pas correct.
C'est bien.
On a tous fait des prières à Dieu en étant quand même convaincus que j'étais dans la volonté de Dieu avec le sens de ma prière. Mais pourtant, on sait très bien aussi que Dieu peut dire oui, Dieu peut dire non, Dieu peut dire attends,
oui.
Ou ma grâce te suffit.
Oui.
Fait que pour moi, c'est un peu la volonté, hein, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est sa gloire, mais la providence, c'est que Dieu nous fait passer par un chemin
qui n'est pas nécessairement celui qu'on voudrait. Est-ce que c'est la différence entre la volonté et la providence?
Oui, c'est-à-dire que la volonté expresse de Dieu, on ne la connaît pas avant de voir sa providence se réaliser. Donc ça, on ne la connaît pas nécessairement. Mais pour prendre les bonnes décisions, on veut quand même essayer de la discerner. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui disent, écoute, parce que certains pasteurs vont dire, nous, on marche sur la terre par la sagesse. Tu sais, Paul a une vision pour lui dire, va en Macédoine. Donc ça, c'est clair. Mais moi, des visions, je n'en ai pas eu beaucoup. Et ce n'est pas que j'y crois pas, là, je ne me moque pas de ça du tout. Pas du tout. J'ai vécu des situations où je priais pour le salut de mon frère, broyait comme une madeleine sur l'autoroute en priant pour le salut d'Hugo. Conviction, Hugo va se convertir, c'est réglé. À partir de là, je fais juste remercier le Seigneur. Vous connaissez peut-être ma famille, vous savez qu'il y a plusieurs dans ma famille qui ne sont pas au Seigneur, des gens très proches. Je n'ai pas encore eu cette conviction-là. Donc, je crois que Dieu nous parle des fois de manière absolument surnaturelle et surprenante. Mais généralement, je vais plutôt avec la sagesse, je vais avec les Écritures, je vais chercher les conseils et tout ça. Et puis là, je cherche une conviction. Donc, c'est quand même, il y a une part de mystère dans ça. Mais la provision, la providence de Dieu va m'aider à discerner quelle est la voie qui est sage, à quoi Dieu m'appelle. Donc, il est souverain, il est intentionnel, il pourvoit à travers sa providence. Et là, je vais chercher la sagesse pour dire, « Ah, je pense, Seigneur, que tu es en train de me diriger dans cette direction-là. » Et plus les implications sont lourdes de ma décision, me marier, avec qui me marierai-je? Mais plus je vais prendre le temps de chercher une conviction profonde. Parce qu'une fois que je suis marié, un bon pasteur qui connaît bien sa Bible va dire, dans sa providence, Dieu a permis que tu sois marié. Viens pas me dire que tu ne devais pas te marier avec cette personne-là. Ça, c'était la question avant le mariage. Une fois marié, Dieu a pourvu. Parce que le mariage est là, il y a des clauses très limitées pour sortir d'un mariage. D'accord? J'avance un peu dans le matériel pour être sûr qu'on couvre tout. Une définition de la providence de Dieu. Je vais un petit peu plus loin dans des définitions de confession de foi, juste pour être sûr qu'on avance. Alors, les confessions de foi sont super utiles. J'ai mentionné tout à l'heure, la Bible, ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas une encyclopédie. Pourquoi est-ce qu'on a des confessions de foi? Il y en a qui disent « Ah, ce n'est pas biblique parce que ce n'est pas dans la Bible les confessions de foi. » Non, c'est super utile. C'est justement, c'est qu'on essaie de résumer une vérité qui est partout dans la Bible, par petits morceaux, puis là on dit, ouais, mais résume-moi ça. Vous faites exactement ça chaque fois que vous présentez l'Évangile à quelqu'un. Quand vous présentez l'Évangile à quelqu'un, vous faites une synthèse de plusieurs vérités bibliques. Autrement, on pourrait juste imprimer des Bibles, puis les distribuer, puis dire, lis-la. Tu sais? Ouais, mais c'est parce que quand tu veux comprendre le salut, là, si c'est juste en lisant la Bible, tu vas aller plusieurs centaines de pages avant vraiment comprendre la patente. C'est assez complexe. Mais en même temps, c'est super simple. Je peux te résumer ça en une minute, si tu veux. D'accord? Je suis en train de donner une définition. Je résume une vérité biblique qui est très vaste. C'est à ça que nous servent les confessions de foi. Le catéchisme de Heidelberg pose la question. Alors, les catéchismes, ça vient des protestants. On l'a déjà dit ici. Nous, on a l'impression, là, les vieux de la vieille, le petit catéchisme, le catéchisme, c'était catholique. Non, les catholiques ont trouvé que les protestants avaient eu une bonne idée, puis ils ont commencé à développer des catéchismes. Le catéchisme de Heidelberg pose la question, « Qu'entends-tu par la providence de Dieu? » Réponse, « La force toute-puissante et partout présente de Dieu, par laquelle il soutient, comme par sa main, le ciel et la terre avec toutes ses créatures et les dirige, de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, effectivement, oui, toutes choses, ne nous viennent pas par hasard, mais de sa main paternelle. » Donc, il dirige toutes choses par sa main paternelle. Il veille comme un bon père, comme une bonne maman qui va reconduire son enfant pour la première journée à l'école. Et là, son enfant dit, « Non, ne me fais pas ça. Je veux mourir. » Puis là, tu t'en vas comme un gros sans-cœur. T'abandonnes ton enfant-là. Non, non, tu diriges par ta main maternelle, paternelle. Tu sais que c'est la bonne chose à faire, mais dans son esprit, c'est le drame. Je me souviens, la première fois, je suis allé au camp des boulots, j'étais très jeune, j'étais avec Mathieu Lemoine, puis on était assis à la cafétéria, à la fenêtre, on braillait comme des madeleines parce qu'on regardait nos parents partir. Ils nous abandonnaient, je veux dire. Le lendemain, on bénissait nos parents de nous avoir abandonnés. ne voulait même pas qu'ils reviennent. Tu sais, c'était correct. Le Seigneur qui a des boulots pour la vie. Ils pourvoyaient. Ils pourvoyaient par leurs mains de parents. Et donc, je trouve que c'est vraiment une belle définition. Une autre définition, Westminster. Chapitre 5, la Providence. Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence. Selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, il y en a du stock là-dedans, hein? À la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté, de sa miséricorde glorieuse. On va prendre le temps de décortiquer ça un petit peu. Il y a beaucoup de matériel ici. Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie, gouverne. Il est souverain. En gros, il est souverain. D'accord? Il est au contrôle. Les Écritures nous disent que Dieu décrète les choses et les choses, toutes choses s'accomplissent selon ses décrets. Donc, Dieu est souverain, absolument souverain. Des plus grandes aux plus petites, par sa sage et sainte providence. À travers ça, il pourvoit à l'accomplissement de ses projets. Selon sa préscience infaillible, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui va se passer. Je veux dire, c'est évident que Dieu doit savoir tout ce qui va se passer pour que dans l'Ancien Testament, dans un livre prophétique, il nous annonce que le Messie allait être vendu pour 30 pièces. 30 pièces de monnaie. Écoute, il faut que Dieu en sache des affaires parce qu'il y a beaucoup de carrefours là, pour que, entre le moment de la prophétie et le moment où ça se produit, là, y en a-tu des décisions qui se sont prises? Comprenez? Je veux dire, ça prend beaucoup de choses. Il faut que tu vois loin. Là. Aux échecs, je ne sais pas, ceux qui aiment les échecs, un bon joueur d'échecs prévoit combien de coups d'avance? Quelqu'un qui le sait? 6? 5? Bah, Dieu. Dieu. Tu sais? Oubliez l'intelligence artificielle. Et donc, selon sa préscience infaillible, il est libre et immuable. Ça veut dire que lui est affecté par aucun agent. Il n'y a personne qui vient mettre pression sur Dieu dans ses décisions. Et ses décisions sont immuables. Ses décisions ne changent pas. C'est pour ça que je vous dis, le fait qu'on ait des agents moralement responsables, c'est tellement dur. Même la prière, là, il y en a qui deviennent cyniques et disent, « Oui, mais pourquoi prier? » Parce que Dieu veut que tu participes à ce moment de gloire-là. Dieu va répondre à ta prière, même s'il a déjà répondu à ta prière, parce que lui-même a conçu ta prière, puis il a conçu l'épreuve qui allait nécessiter ta prière, puis il a conçu la réponse à ta prière, mais tu fais partie du projet. Je comprends que dans la grande, grande toile, on est allé au Louvre cet été, il y avait des toiles immenses. C'est une des choses qui est fascinante, il y avait des toiles immenses. Je comprends que lorsque tu saisis la providence de Dieu, tu dis, oui, mais moi, je suis juste comme, tu sais, la petite touche de rien du tout. Ah, mais t'es dans le tableau pareil. T'es dans le tableau. Le tableau, il est glorieux. C'est Dieu qui est en train de le peindre. T'es dans le tableau. C'est mieux que d'être à l'extérieur du tableau, je te garantis. T'es dans le tableau quand même. Et donc, ses décisions sont immuables. Les Écritures sont claires. On verra tranquillement, OK, mais on dirait que Dieu, parfois, il est touché, on peut faire changer d'idée. Ça viendra plus tard, d'accord? Et j'aime la fin de cette définition-là parce qu'elle développe un peu l'idée que c'est pour la gloire de Dieu. On va plus large que ça. Ça dit, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté, de sa miséricorde glorieuse. Donc, lorsqu'on dit que Dieu fait tout pour sa gloire et qu'il veut nous faire participer à ça et qu'il veut nous manifester sa gloire parce que sa gloire est merveilleuse, pensez à tous les aspects de sa gloire. Dieu veut nous révéler son amour. Dieu veut nous révéler ses perfections. Dieu veut qu'on voit ce qu'il y a de plus beau. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette définition-là. Et pour un chrétien, je vais aller vite là-dessus, là, mais Piper prend le temps de faire la nuance entre dire c'est le destin. Les chrétiens ne croient pas au destin, dans le sens que le destin, ça semble arbitraire et froid. Les choses devaient se produire ainsi. Ben oui, la Bible enseigne ça, mais c'est insuffisant, c'est frustrant comme idée. Parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité et il n'y a surtout pas d'intentionnalité bienveillante. Les choses se produisent comme Dieu l'a entendu, c'est le destin. Non, c'est providentiel. parce que Dieu pourvoit pour sa gloire et le bonheur des siens. Donc, ce n'est pas simplement « Ah, ça devait arriver ». Non, c'est Dieu en avait décidé ainsi. Dieu en avait décidé ainsi. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on lutte avec cette idée-là d'un Dieu qui se glorifie? Parce que le fondement de tout ça, c'est Dieu est en train de manifester sa gloire. Qu'est-ce qui nous amène à lutter avec ça? Cette notion-là nous trouble profondément. On la trouve, par exemple, dans Ésaïe 48, 9 à 11. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. » Il ne dit pas « à cause de ma compassion », mais il parle d'extermination. C'est rough, là. C'est dur. Mais il dit « non, c'est à cause de ma gloire. Je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset dans l'épreuve, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » Alors ça, c'est une des grandes difficultés qu'on peut avoir avec l'idée que Dieu veut manifester sa gloire, puis il dit « Hey les amis, je vais lancer un gros, gros, gros party, puis on va me fêter moi. » C'est drôle, ce matin, j'étais en train de regarder le calendrier. Des fois, j'aide ma famille un petit peu à s'organiser. Fait que j'ai regardé à quelle date on pourrait fêter ma fête. Et ça fait toujours étrange. J'envoie ça à la famille. Juste comme ça, si vous voulez me fêter, ça rentrerait dans le calendrier. Ça fonctionnerait bien. Dieu, imaginez, lui, c'est le super party, là. Il dit, « Moi, je vais faire un univers extraordinaire, puis on va me fêter moi. » Fait que là, on dit, « Ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. » Et pourtant, si Dieu avait dit, je vais nommer quelques noms, si Dieu avait dit, « Je vais créer un univers extraordinaire pour fêter Martin. » Bon, peut-être que Martin dirait, « Bon, c'est un peu fort, mais je pense qu'à la fin, il l'accepterait. » Tu sais? En fait, moi, je vous le dis tout de suite, je le confesse, si Dieu veut réviser son plan puis il veut me fêter moi, l'idée me plaît. D'accord? Donc, on accepte la notion de la gloire. On accepte les louanges. Bon, certains vont être mal à l'aise avec ça. Mais quand même, ça fait du bien. La Bible est pour ça, qu'un autre te loue et non ta bouche. On devrait se lancer des louanges. C'est ça qu'on devrait faire. On a plus de difficultés quand il y a une personne qui dit « Non, fêtez-moi. » Et là, je vais prendre un personnage qui est trop... Il est plus grand que nature, d'accord? Il est partout. Là, on vit une télésérie extraordinaire, hein, si vous suivez les élections américaines avec moi. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Donald Trump. Je pense que c'est l'aspect, que vous soyez d'accord ou non avec ses politiques, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est ça qui graffine. Tu sais, il n'y a jamais eu un aussi grand président dans l'histoire des États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais vu une prospérité semblable. On sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, « Bien, je pense que si vous voulez qu'on s'en sorte, votez pour moi. » Mais, comme, il y a une autre version de cette histoire-là. On peut réécrire le scénario. C'est comme désagréable, tu sais, quelqu'un qui est tellement centré sur lui. Donc, on est très bien avec la gloire, surtout si c'est pour nous. Mais quand quelqu'un d'autre veut nous parler de sa gloire, ouf, malaise. On est moins bien avec ça. Alors, lorsqu'on arrive à la personne de Dieu, tu sais, au contrôle de tout, il crée un univers pour qu'on l'adore. Non, mais je veux dire, les non-chrétiens, vous avez déjà entendu ça, là? Quand vous discutez avec des non-chrétiens, puis on parle un peu de l'Évangile, ils sont là comme, « Non, mais ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. » Moi, j'ai dit qu'on terminait dans une minute, on terminait. On va mettre ça sur la providence de Dieu, peut-être, ou mon incompétence. Pourquoi on lutte avec ça? Bien, c'est pas parce qu'on a un problème avec la gloire, c'est qu'on a un problème à ce que la gloire soit donnée à quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment qu'on a un problème avec la gloire. On est des êtres qui sont fascinés par la gloire. On admire des gens qui ont réussi. On a de l'admiration pour des personnages à travers l'histoire. On fonctionne très, très bien avec la gloire. C'est juste qu'il faudrait peut-être pas que quelqu'un m'enlève ma gloire. Et là, cette idée qu'un être quelconque viendrait puis dirait « Mais je vais créer tout l'univers pour ma gloire et providentiellement, je vais diriger toute chose pour ma plus grande gloire. » Et puis, je trouve qu'il fait un bon travail, Piper. Il donne une illustration à la page 44, il dit, « Et si vous constatiez que Dieu, agissant constamment pour sa gloire, s'apparente moins à un tyran peu sûr de lui, qui est vaniteux et avide d'attention, et plus à la star d'un sport professionnel qui arrive en Porsche dans un quartier défavorisé parce qu'il aime sincèrement les jeunes des cités et qu'il veut leur offrir l'immense joie de pouvoir jouer avec leur héros. Ça ressemble plus à ça. Voyez-vous, Dieu est littéralement ce qu'il y a de plus beau, de plus parfait, de plus bon, de plus agréable dans l'univers. C'est Dieu. Et Dieu dit, « Je veux te partager ça pour l'éternité. Je t'invite à voir ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus parfait, de plus agréable, et tu vas contribuer à cette gloire-là parce que tu vas chanter mes louanges, parce que tu vas incarner ce que je suis en étant bon, en prenant soin des gens. Mais tu vas être comme moi. Tu ne seras pas comme toi. Tu vas être comme moi. Tout ce qu'il va y avoir de plus beau en toi ne sera pas le reflet de toi. Ça va être le reflet de moi. Parce que toi, tu n'es pas Dieu. Et donc, si j'offrais à l'univers d'adorer Yannick pour l'éternité, écoutez, après 2 ans, je pense qu'on aurait fait le tour. Je suis généreux. Si c'était d'adorer Nathalie ou Michel ou Monique ou Martin, regardez, là, il est beau, il est fin, il est gentil, il est fort, il est capable, on va l'adorer pour l'éternité. Non, Dieu s'offre lui-même et il nous dit, viens voir, parce que ton bonheur est là, à cet endroit-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, parmi les plus grands bonheurs que je vis dans la vie, c'est un moment où je suis devant la beauté, comme dans la nature, admettons, l'architecture des fois. Je me sens bien dans mon corps, je ne me sens pas malade. Petit café, ah, j'étais à Paris cet été, 6h30, petit pain au chocolat, petit espresso, des petits quartiers de Paris, je regarde les gens aller travailler, l'architecture est magnifique. C'est le bonheur. Mais là, imaginez que l'architecture magnifique, c'est Dieu, sa présence, que je goûte, que je vois, que je ressens, que je contemple. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Maintenant, il y a quelque chose en nous qui se rebelle contre ça, parce qu'on voudrait que moi ait plus d'espace dans ce scénario-là. Mais lorsqu'on va le voir, ça va avoir énormément de sens qu'on n'ait pas plus d'espace. Puis on va dire, Seigneur, merci de ne pas t'être caché derrière moi. Je veux être en arrière-plan, Seigneur. Je veux que tu sois au premier plan parce qu'on va voir sa majesté. Quelques questions d'application pour vous aider à réfléchir cette semaine. Je voulais juste une autre citation à page 44, puis je vais vers les applications, puis on termine. Et si, en d'autres termes, on découvrait finalement que la beauté de Dieu atteint son paroxysme quand elle est partagée, c'est ça l'Évangile, dans le fond. Et c'est ça la beauté subversive de l'Évangile. On va en parler tantôt dans 1 Corinthiens. La beauté subversive de l'Évangile, c'est que Dieu manifeste le mieux sa gloire lorsqu'il se partage à nous jusqu'à se donner lui-même sur la croix. Et donc, la gloire de Dieu est le plus manifestée quand Dieu est ultimement, parfaitement généreux de lui-même jusqu'à mourir sur la croix pour nous. C'est là que sa gloire est parfaitement manifestée. Et lorsque nous, on répond en disant « Wow, Seigneur, merci », là, tu arrives au summum de la gloire de Dieu. C'est quand même fascinant. C'est une gloire qui est plus belle lorsqu'elle est partagée que lorsqu'elle est gardée pour lui. Question de réflexion pour vous. Dans ta vie, qui a besoin que tu lui rappelles l'emprise de Dieu, la souveraineté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui, gentiment, auraient besoin que tu leur parles de ce Dieu souverain? Parce que ça viendrait les apaiser, ça viendrait les sécuriser. Comment peux-tu cultiver une confiance toujours plus profonde dans la certitude du salut que Dieu prédestine? Promet, achète, accompli. Certains d'entre nous, on vit tous les jours, vous vivez de jour en jour avec toutes sortes de doutes, de questionnements par rapport au salut. Mais Dieu, dans sa providence, a fait que l'Évangile a résonné dans ton cœur. Tu as entendu, hein? Jésus dit, je les appellerai à moi. L'Évangile, qui est un message offensant, scandaleux, comme on va en parler tout à l'heure à plein de gens, est devenu mélodieux dans ton cœur, dans ton esprit. Et Dieu a pourvu. Comment est-ce que tu peux grandir à travers la providence de Dieu dans une joie plus profonde, plus grande, une plus grande confiance? Où votre cœur est-il tenté d'utiliser des arguments superficiels et respectables pour masquer un rejet profond de Dieu lui-même? où dans ta vie la souveraineté de Dieu, sa providence se manifeste, puis là, tu commences à débattre pour ne pas admettre que Dieu est au contrôle de ta vie. Et ne pas embrasser ça. Une expression que j'ai utilisée à quelques reprises avec l'Église, je dis, comment est-ce qu'on fait face à la souffrance comme chrétien? On accueille la souffrance. On accueille la souffrance. Parce que Dieu, dans sa providence, pourvoit. Ça ne veut pas dire que je me réjouis. Ça ne veut pas dire que je me réjouis. Mais je l'accueille. Parce que c'est là que Dieu va continuer sa transformation. En tout cas, j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche un peu pour avoir le goût d'étudier avec nous la providence de Dieu. Si vous n'êtes pas déjà inscrit au cours, il y a des feuilles derrière, vous marquez votre nom, votre adresse courriel le plus clairement possible, vous allez être ajouté. Jason, si tu peux les mettre sur la petite table derrière. Et vous allez recevoir le samedi les notes de cours pour le lendemain, un lien vers le cours précédent, les notes précédentes. Et voilà. Que Dieu bénisse notre Église cet automne. C'est bon? Je m'arrête ici parce que j'ai vraiment dépassé mon temps. On se revoit dans pas si longtemps.